à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau Zoomcast, cette 13e édition du Zoomcast, une émission qui est en direct donc, et nous sommes le 23 mars 2017. Et donc, pour participer à ce Zoomcast, je suis en compagnie de Meb. Salut Meb.
Salut Kevin, salut à tous et bienvenue donc pour ce Zoomcast.
T'es de retour après, après avoir perdu
dis donc, j'ai eu une sacrée extinction de voix là, mais ça n'a pas duré. Si, ça a duré un moment parce que je t'ai eu pas mal de fois à cette période pour voir si on faisait ou pas, si je faisais ou pas l'émission. Et puis
c'est
effectivement, c'était un peu chaud. Ouais.
Il y a avec nous un invité, donc, et en l'occurrence, pour le coup, c'est une invitée. C'est Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, ravie d'être ici.
Alors Sandrine, elle va nous raconter dans le focus de ce Zoomcast son projet, un projet qu'en fait elle a conçu, ce qu'on appelle une mallette Scratch, c'est ça ?
Oui, mallette.
Voilà, une mallette qui permet d'adapter le logiciel, le logiciel Scratch qui est utilisé dans les écoles, parce que maintenant en fait il y a un nouveau, depuis la rentrée... les élèves ils sont obligés d'apprendre l'algorithme et la programmation. C'est pas plus mal, sauf que en l'occurrence c'est pas accessible aux personnes déficientes visuelles, et Sandrine elle a trouvé un moyen de le rendre accessible.
Tout à fait, c'est ça.
Donc du coup tu pourras nous raconter un petit peu tout ça.
Oui, avec plaisir.
Vous savez que pour participer à ce Zoomcast vous avez accès au chat. Si vous avez un compte membre vous pouvez y accéder sur edencast.fr/live, et si vous avez l'application mobile Edencast sur l'App Store, vous pouvez donc pour l'iPhone et l'iPad et l'iPod Touch, vous pouvez également vous connecter par là. Et en parallèle à ce focus, on a aussi un sondage qu'on a publié il y a pas très longtemps, qui est en ligne et auquel vous pouvez participer, puisque je le fermerai à la fin de cette session. Donc, pour l'instant, il y a 187 ou 188 personnes qui ont participé.
C'est pas mal, hein, quand même.
Ouais, tu l'as vu ou pas, Meb ?
Ouais, j'ai même voté, je crois. Enfin, j'en suis sûr. Ouais. Bah, c'est devenu une petite habitude que je prends le jour où il y a l'émission prévue quelques jours avant.
Oui.
Je réponds au sondage.
Toi aussi.
Ouais.
Moi aussi.
J'ai trouvé que c'était les questions étaient bien choisies, bien pertinentes.
Ouais.
C'était pas mal.
Il porte sur quoi ce sondage d'ailleurs, Meb ?
Eh bien, sur la façon qu'ont les gens de cuisiner, je crois, différentes façons. Soit cuisiner parce qu'ils sont doués et ils se débrouillent tout seuls, soit ils font simplement des plats. Des surgelés, des choses comme ça, parce que c'est facile, ou bien ils se laissent nourrir, entre guillemets, par ceux qui veulent bien les nourrir.
C'est
voilà,
ça.
Donc il y avait trois questions, en gros.
Et, mais oui, mais en fait, ce sondage, on rigole un petit peu, mais c'est aussi une manière de tordre le cou à certains clichés, à certains préjugés, parce que souvent on dit, non mais attends, il est aveugle ou il est malvoyant, de toute façon, il ne peut pas. Il ne peut pas cuisiner, hein, donc il doit passer son temps à commander des pizzas ou à faire des... ou kebab, etc. Or, c'est faux, d'après la
première. Oui, parce que la première question, dis donc, moi j'étais agréablement surpris. Enfin, je m'y attendais un petit peu parce que... Oui, je m'y attendais un peu parce que je sais que beaucoup de non- et malvoyants cuisinent plus qu'on ne le pense. Et du coup, c'est très intéressant, en fait, finalement. Pas surprenant me concernant, mais d'autres voyants qui pourraient lire ce sondage se diraient « Ah, c'est incroyable, dis donc, les non-voyants cuisinent, dis donc !» Et donc, voilà. Donc ça, c'était la grosse surprise, on va dire, entre guillemets.
C'est vraiment impressionnant.
Ah oui, il y a un gros écart entre la première question... Et puis la troisième. Donc
là,
en fait,
la tendance,
les gens qui...
on est à 59%. C'est énorme, hein, c'est énorme.
Ouais. C'est bien.
Les jeunes adorent cuisiner.
Voilà, exactement, Sandrine. Les jeunes adorent cuisiner. Mais je crois pas qu'il y a que les jeunes. Hein.
Avec une spéciale dédicace pour Aza Ajar qui fait des Monte Cao à tomber.
Tu les as goûtées?
Ah oui, elle sait qu'il faut m'en ramener régulièrement.
Non, mais tu vois, on en discutait il y a quelques jours, Sandrine, et toi aussi, tu disais que tu étais surprise. C'est pour ça que tu n'étais pas surprise dans un sens, parce qu'au
Non.
moins, ça prouve que.
Ouais.
Les élèves de ma classe aiment bien cuisiner et voilà. Donc c'est un plaisir aussi pour eux. Donc je suis pas.
On aurait pu croire que c'était générationnel, hein, mais en fait, pas du tout, hein. Il y a autant de jeunes que de non-voyants plus âgés qui cuisinent, en fait. C'est vraiment.
Vous savez que le chat il est ouvert, hein, donc vous pouvez vous connecter. Il y a pas mal de monde hein, d'ailleurs. Il y a Adélaïde, il y a Bruno, il y a Sylvie, il y a Vivi, il y a Quentin qui dit que lui, lui en fait il savait pas quoi répondre parce que enfin il voulait prendre un joker mais il n'y avait pas de joker dans les réponses parce que lui il sait faire cuire que des pâtes. Voilà.
Ouais, mais il pourrait peut-être rentrer dans la deuxième catégorie, alors à la limite.
Bah ouais mais je sais pas peut-être
À la
qu'il
limite.
peut-être que son ego il
Ouais, ouais.
peut-être qu'il a pas
Tout
accepté
dépend
son
ce qu'on met
ego.
dans les pattes.
Tu disais Sandrine?
Tout dépend ce qu'on met dans les pattes. C'est ça.
Ah c'est pas faux ça. Tu vois Quentin?
Dans les écoles, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais est-ce qu'il y a des ateliers de vie quotidienne et donc c'est l'occasion peut-être aussi dans ces ateliers d'apprendre justement aux jeunes adolescents d'apprendre à cuisiner, d'apprendre des trucs comme ça. Et s'il y a ça, effectivement, par la suite, on garde ces habitudes en fait. Donc,
Alors, en
je ne sais pas
circuit
si ça se fait
ordinaire,
encore.
en circuit ordinaire, ça se fait très peu parce qu'il y a un problème légal par rapport à la nourriture dans les établissements scolaires. Par contre, dans les filières SECPA, nous en particulier, on a un jeune qui est en filière SECPA, il y a un atelier, effectivement, restauration et hôtellerie. Donc là, dans ce cadre-là, ils cuisinent. Et sinon, par contre, les services de soins qui suivent les jeunes, organisent régulièrement des ateliers le mercredi après-midi sur différents thèmes et parfois le thème de la cuisine, justement.
Mais c'est vrai que c'est vraiment le rôle je pense, des écoles spécialisées. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais c'est de montrer la voie par rapport aux activités de la vie quotidienne. C'est très, très important, ça.
Il y a Vivi qui dit, moi je dis chapeau aux gens enfin, qui s'en sortent, parce qu'elle, en gros, elle n'est pas très douée.
En même temps, il y a beaucoup de voyants qui ne sont pas très doués pour faire la cuisine non
Ouais
plus et qui
aussi.
sont très plats préparés.
Il y en a beaucoup, hein.
Je crois que c'est plus le fait de ne pas cuisiner, c'est plus un problème de société finalement. Où les gens rentrent tard et ils n'ont pas envie de s'éterniser dans la cuisine. Et donc je pense que ça, plus largement, je pense qu'il y a beaucoup de voyants qui ne cuisinent plus.
Et
Non plus.
il y a Antoine qui dit que lui, c'est sa maman qui lui a, sa grand-mère qui lui a appris à
À
cuisiner
cuisiner.
sur du feu de bois, je crois. Et que grâce à ça, il est fier parce qu'il est autonome. Toi, Sandrine, tu donnes pas de cours de cuisine?
Ah non, je ne donne plus de cours de cuisine. Mais en revanche, au début de ma carrière, j'ai travaillé en EREA, établissement régional adapté. J'avais des ados déficients visuels et pendant toute une année, le projet était en fait, chaque semaine, donc on organisait un repas le vendredi pour les adultes de l'établissement et parfois on invitait des gens à l'extérieur. Et donc toute la semaine était organisée autour de la préparation du repas. Alors, ça allait de l'analyse mathématique des recettes, en passant par les courses, etc., les invitations. Et finalement, le vendredi matin, quand même, tout le monde cuisinait. J'avais une proportion d'élèves non-voyants supérieure aux élèves malvoyants. Et c'était toujours un succès. C'était parfois un peu rocambolesque pour certains qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la cuisine chez eux. Mais les adultes qui sont venus manger ont toujours été satisfaits. Voilà. Mais sinon, je ne cuisine plus avec mes élèves justement pour ce problème de législation par rapport à la nourriture dans les établissements.
Le Zoomcast, une émission Edencast.fr avec Kevin sur Edencast Live.
On va passer au focus avec Sandrine. Et du coup, avant de nous parler de ton projet, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours.
Donc, moi, je suis enseignante depuis 23 ans maintenant. Je suis enseignante spécialisée depuis 98. Pas le dire trop fort, sinon ça donne des rides. Je suis donc enseignante spécialisée dans la déficience visuelle. J'ai donc enseigné plusieurs années dans la déficience visuelle, dans différentes structures, dans des structures itinérantes, dans des, ce qu'on appelle des ULIS, c'est-à-dire des classes qui sont incluses dans des établissements scolaires et où les élèves sont en inclusion individuelle quasiment toute la journée. En établissement fermé aussi, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le fameux projet Cuisine. Et puis ensuite, j'ai repris un petit peu l'enseignement ordinaire et quelques années après, on m'a proposé d'être maître formateur. Et donc, je suis devenue maître formateur avec une seule idée en tête, les adaptations qu'on peut faire pour des élèves à besoins particuliers permettent à tous les élèves de mieux comprendre. Et c'est justement exactement le cas de la mallette que je vais vous présenter. Actuellement, je suis enseignante spécialisée dans une ULIS collège, c'est-à-dire que, alors, le gros mot ULIS signifie unité localisée d'inclusion scolaire. C'est-à-dire que mes élèves sont inclus dans leur classe toute la journée, en 6e, 5e, 4e, 3e. Je m'occupe également d'une jeune fille en seconde, d'une jeune fille en première et une jeune fille en terminale L. Tous ces élèves sont en classe ordinaire pour les collégiens et ils bénéficient d'une scolarité un peu particulière dans le sens où leurs camarades ont un partenariat avec le conservatoire et donc l'emploi du temps de toute la classe est allégé pour permettre ce partenariat musical. Et sur les temps de conservatoire de leurs camarades, les élèves déficients visuels viennent dans l'unité pour apprendre différentes choses. Moi, je leur enseigne en particulier la méthodologie quand on est déficient visuel, en particulier quand on ne voit que 3-4 mots sur une ligne parce qu'on est en Arial 24 ou quand on a une plage braille avec 32 petits caractères sous les doigts. On apprend en particulier tout ce qui est outil qui va permettre d'aller en profondeur dans les textes, qui va permettre de ne pas se perdre sur une équation mathématique, qui va permettre aussi de savoir utiliser son tiers-temps. Et puis, on fait aussi du braille intégral, abrégé, mathématique. Je crois, sans trop me tromper, que c'est un des temps que les élèves préfèrent parce qu'on rigole beaucoup, aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà. Et puis, l'autre grosse partie de mon travail, c'est donc d'adapter et de transcrire les cours que les profs me confient ou les supports. Et donc, la mallette, ça vient de là.
Eh oui, c'est... la fameuse mallette.
La fameuse mallette vient de là. Elle fait partie de ce, de c'est dans ce, le cadre de cette mission-là. Puisque depuis la rentrée de septembre, les programmes au collège ont changé. Et désormais, en mathématiques, un cinquième du programme est dévolu à l'algorithmique et à la programmation.
Attends, avant que tu parles de ça.
Oui.
Tu gères combien d'élèves à peu près en...
Alors, cette année, j'ai 4 élèves de 6e. J'ai 4 élèves de 5e, 3 élèves de 4e, 2 élèves de 3e, 1 de seconde, 1 de première, 1 de terminale, ce qui m'en fait 17, dont 7 braillistes anciens plus 2 braillistes nouveaux. Voilà. Donc, ça fait un petit monde et assez conséquent quand on pense qu'ils ont tous un emploi. Temps différent.
Et que déjà, l'emploi du temps. Déjà, non seulement ça, mais par contre, c'est qu'au niveau des maths, par contre.
Alors, au niveau des maths, forcément, la fourchette entre celui qui est en 6e et celle qui est en première ES, forcément.
C'est énorme.
C'est vaste. Voilà. C'est très vaste. Mais ils ont tous un point commun, c'est ce problème de la programmation. On va d'abord parler un petit peu de Scratch. Scratch, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel dont. L'objectif est de comprendre comment fonctionne la programmation. L'objectif n'est pas d'apprendre un langage, c'est vraiment de comprendre la gymnastique de communication avec un ordinateur. Ce logiciel a la particularité d'être essentiellement visuel. C'est-à-dire qu'il est basé sur des étiquettes qu'on va devoir déplacer à la souris, qu'on va devoir emboîter à la souris. Autant dire que déjà en étant voyant, les élèves ont du mal à les emboîter correctement. Et si c'est mal emboîté, ça ne se déclenche pas. Mais donc il faut déplacer des images à la souris, déjà c'est mal parti.
Déplacer des images à la souris quand on est aveugle, c'est clair que...
Et quand on a un nystagmus fort, c'est compliqué aussi parce que l'étiquette elle bouge avant même qu'on l'ait.
tu peux rappeler d'ailleurs à nos auditeurs c'est quoi un nystagmus parce que...
Alors un nystagmus c'est un mouvement involontaire de l'œil qui est accentué par le stress. Donc autant dire que l'élève qui est face à son écran quand il a du mal à comprendre, il est stressé Et alors, du coup, déplacer l'étiquette, quand on n'arrive pas à l'emboîter, le stress augmente encore plus et du coup, tout bouge encore plus. Voilà. En plus, on a l'autre souci, c'est que pour les élèves qui ont un reste visuel dans mon groupe, si on augmente suffisamment pour pouvoir lire ce qui est à l'écran, eh bien, on ne voit plus que deux ou trois étiquettes à la fois, ce qui devient quand même limité pour construire un programme. Autre souci, ce logiciel propose de déplacer un petit chat. Déplacer un petit chat qu'on ne voit pas, ça devient aussi compliqué. Et on doit déplacer ce petit chat dans un repère...
Je me rappelle, tiens, je fais juste un retour dans le passé, je me rappelle quand tu m'avais appelé à l'époque, tout au début, là, quand tu n'avais pas encore... Tu n'avais pas encore réfléchi à la manière dont tu allais...
Je n'avais pas de solution.
Ouais. Et du coup, tu m'avais appelé, mais t'étais désespéré, quoi. C'était
assez désespérant, c'est ça. Et alors là, déplacer un chat sur un... Alors, déplacer un chat, déjà, c'est compliqué quand on ne voit pas ou très peu. Mais déplacer un chat sur fond blanc en se disant que caché derrière le fond blanc, il y a un repère orthonormé, ça devient encore plus compliqué.
Alors, tu peux expliquer à nos auditeurs c'est quoi orthonormé, hein, parce que alors, tu sais, il n'y a pas que des matheux, là.
Un repère avec... en gros, le chat, pour savoir à quel endroit il est sur l'écran, on lui donne deux coordonnées, deux points, un petit peu comme sur un GPS, sauf qu'au lieu de lui donner latitude et longitude, là, on lui donne la hauteur et la largeur sur l'écran. Et en reliant les deux, on obtient le point où se trouve le chat. Sauf que trouver ça, si l'écran est tout blanc, c'est déjà très compliqué pour un élève voyant. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Donc je me suis dit, il va falloir que j'en fasse quelque chose de ça, parce qu'il faut bien que mes élèves fassent un cinquième du programme, d'autant que mes deux troisièmes passaient le brevet. Et qu'au brevet, c'est une capture d'écran qu'il faut analyser. Du coup, je me suis renseignée un peu partout. Et on m'a dit, mais il faut faire la programmation à ce moment-là avec un logiciel d'apprentissage complètement linéaire. Alors à ça, j'ai dû dire non pour deux raisons. D'abord parce que tous les élèves de la classe font Scratch et je ne me voyais pas d'imposer au professeur de mathématiques. Ils feront tous Scratch, donc vous préparez le cours sur Scratch. Tout le monde.
François qui dit sur le chat, ce sont des gens qui vont pas sur le terrain. oui, sûrement.
Là, moi, je suis invitée au ministère à plusieurs reprises justement parce que malgré ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire bouger les choses et qui demandent de l'aide et des conseils de gens qui sont sur le terrain. Donc.
Ouais, mais après coup.
Voilà.
Comme si tu disais à un aveugle, regarde-toi dans le miroir pour t'habiller le matin. Et puis après coup, tu vas dire, ah oui, mais en fait non, tu vois pas. Hein, il faudrait qu'on t'aide.
Bref. Ça paraît évident.
Ouais.
Et donc, la deuxième raison, ça c'était la première raison, c'était mes élèves ils sont en inclusion, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas comme tout le monde, on va trouver une solution. Ça c'était la première raison. Et la deuxième raison, parmi mes élèves, j'ai donc ce que je disais tout à l'heure, quatre jeunes braillistes, dans le sens quatre nouveaux braillistes. Quand on est brailliste depuis un petit moment, déjà se repérer dans un texte long. Quand on n'a que 32 caractères sous les doigts, ce n'est pas évident. Et alors, pour un texte littéraire, on peut, au fur et à mesure de la lecture, laisser un petit étoile-étoile par-ci par-là, un petit slash-slash, un petit quelque chose pour laisser une trace et pour faire retrouver par l'ordinateur. Par contre, dans un programme, si on s'amuse à faire ça, le programme ressemble très vite plus à rien du tout. Et puis, en plus, en programmation, on a un élément quand même, un type d'instruction qui pose souci, ce sont les boucles, c'est-à-dire qu'on va indiquer à l'ordinateur, eh bien écoute, toutes les instructions qui sont entre ce début et cette fin, eh bien tu les refais quatre fois. Très bien, sauf que quand on arrive à la fin, où est le début quand on n'a qu'une ligne sous les doigts? Ça devient très compliqué. Donc c'était une solution que je ne pouvais pas garder non plus. C'est donc de là qu'est partie l'idée de la mallette. Il me fallait une solution qui remplisse plusieurs critères. Donc d'abord, que ce soit à peu près la même chose que pour les copains. Il fallait que ce soit solide à la lecture, parce que des étiquettes, même aimantées, quand on les lit avec les doigts, ça bouge. Du coup, au fur et à mesure, on déplace les pièces et on modifie le programme, ce qui est un peu gênant. Quand on s'est trompé, qu'on a envie de rajouter une instruction, eh bien, On peut, si on veut décaler les choses, on est obligé de décaler toutes les étiquettes pour y arriver. Donc, il me fallait quelque chose qui soit facile pour insérer une nouvelle instruction. Et puis enfin, il fallait que je trouve une solution aussi pour cet écran, parce que voir le chat bouger, c'est bien gentil de le faire bouger, mais si on ne le voit pas bouger, si on ne voit pas l'effet que ça a sur l'écran, on est bien avancé. Et puis, ça oblige à compter sur le copain voyant en permanence et on n'est pas du tout autonome. Donc, le premier élément de la mallette, c'était un substitut d'écran.
Un substitut d'écran, mais vraiment entièrement tactile pour le coup.
Entièrement tactile, c'est-à-dire qu'en fait...
Il n'y a pas de son, il n'y a rien.
Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Donc, c'est en fait un bloc de polystyrène récupéré sur lequel j'ai mis un repère, donc, comme on disait tout à l'heure, gradué dans les deux sens, tactile, qu'on peut suivre entièrement avec les doigts ou avec les yeux pour le copain voyant, parce qu'on verra plus loin que le copain voyant est bien intéressé par ce support. Et puis, dessus, ben, on va pouvoir planter autant d'épingles qu'on veut et mettre des élastiques pour représenter les déplacements du fameux petit chat. Et en fait, en soulevant et en baissant les épingles, l'élastique bouge et peut simuler le mouvement du chat. Donc, le substitut d'écran, il va servir à trois moments différents. Il va servir au moment où le prof de maths donne le problème. Les copains voyants, eux, se débattent avec leur crayon et leur gomme. Et autant dire, quand on fait des essais-erreurs au crayon et à la gomme, c'est très vite handicapant. Alors qu'avec les épingles et les élastiques, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus interactif. Donc, ça permet vraiment de réfléchir au problème. Ben voilà, on m'a demandé de faire un rectangle, de tendre de côté, etc. Donc, l'élève va le modéliser sur son écran, enfin sur le substitut
sur
d'écran.
Sur le substitut, ouais.
Voilà. Le substitut d'écran va aussi servir à la relecture du script avant de se lancer, comme les copains se lancent directement sur l'écran, ben, eux, enfin pour saisir les étiquettes, eux prennent le temps de construire leur programme. Et une fois qu'ils ont construit leur programme, ils vont vérifier au fur et à mesure sur l'écran s'ils ne se sont pas trompés. Après le substitut d'écran, le reste, en fait, le concept, c'est ça. C'est que j'ai pris toutes les instructions du logiciel et je les ai toutes remplacées par des Lego. Et les Lego, en tout cas pour mes élèves, ils sont très habitués à les manipuler parce qu'on s'en sert pour faire des fractions, on s'en sert pour faire des croquis en géographie, pour faire des schémas en mathématiques. Donc c'est un outil qu'ils utilisent quotidiennement. Donc chaque pièce est représentée par un assemblage de briques de Lego. Et chaque instruction dans le logiciel a une couleur différente. Donc nous, les couleurs, on s'en fiche un peu.
Mais ça peut aider les gens qui voient, qui sont en binôme.
C'est pour ça que j'ai conservé toutes les couleurs. Le copain voyant puisse avoir cet appui. Et pour mes élèves, finalement ça ne sert pas qu'à mes élèves d'ailleurs, sur le côté droit, sur la tranche droite de la pièce, il y a une petite forme géométrique simple. Un triangle, une demi-lune, un petit carré. En fonction du type d'instruction.
Et Meb, est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose ou pas?
Ouais, carrément. Tout à fait, c'est clair.
Ça va.
Alors, au fur et à mesure qu'on construit le programme, on va emboîter nos pièces, emboîter les différentes instructions. Et pour le lire, on va avoir deux façons possibles de le lire, et c'est là que la mallette a un plus quand même qu'on n'a pas d'habitude en braille, c'est qu'on va pouvoir lire soit linéairement, sur le dessus, avec les index, et en même temps, alors au début, ils le font séparément, et maintenant, ils en sont tous à le faire simultanément, avec le majeur, sur le côté droit, on a une lecture diagonale du programme, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision d'ensemble très rapide du programme avec les formes géométriques qu'on reconnaît beaucoup plus vite que les caractères braille.
Et donc, au final, c'est du Lego maintenant, c'est ça?
Voilà, c'est sur des pièces de Lego. Ouais.
Parce qu'au début, c'était du polystyrène, mais maintenant, t'as changé entre-temps.
Ah non, le polystyrène, c'est le substitut d'écran.
Il est toujours,
ouais. Ah oui, il est toujours là.
Là, c'est les instructions qui sont sur des pièces Lego, en fait.
Ah oui, donc il y a les deux en même temps, ouais.
Voilà, le substitut, c'est pour l'écran, et enfin, le polystyrène, c'est pour le substitut d'écran, et les instructions, elles sont toutes représentées par un Lego, et si on a un déplacement, c'est un triangle, si on a un son, ça sera un rond, si on a un stylo, une instruction pour le stylo, ce sera une étoile, et donc, comme ça, avec le majeur sur le côté, et bien, l'élève, il peut très vite analyser le programme. Ah oui, c'est vrai, là, j'ai trois instructions de déplacement, ensuite, je fais intervenir le stylo, puis le son, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une force de la mallette, c'est que ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble, chose que à laquelle ils n'ont jamais accès d'habitude. Donc, voilà. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, les fameuses pièces dont je parlais tout à l'heure, les fameuses instructions où on répète plusieurs fois une série d'instructions, là, pour les suivre, pour le coup, ça va être très simple. Ce sont deux pièces de Lego qui sont reliées par un scotch d'électricien, parce que c'est très costaud, et c'est extensible. Donc, ces deux pièces sont reliées. Elles encadrent toutes les instructions du programme. Et quand on arrive en bas de la série d'instructions, on arrive sur cette pièce de fin de boucle. Et là, on a deux solutions pour retrouver le début. Puisque comme on ne l'a fait qu'une fois, il faut remonter pour le faire autant de fois qu'on nous a demandé.
Sinon, il faut un peu de mémoire, non, quand même, non ?
Et bien là, il n'y a pas besoin de mémoire, justement. Imagine, sur le côté, ces pièces-là, elles ont une demi-lune sur le côté. Donc, il repère la demi-lune. Il lui suffit de remonter le long des instructions pour retrouver la précédente demi-lune. Et du coup, il sait où se trouve le début de la boucle. Donc ça, c'est une façon de repérer le début de la boucle. Et l'autre façon de la repérer, c'est en suivant le scotch d'électricien qui remonte à la pièce initiale. Du coup, il y a deux façons de pouvoir le vérifier.
Et comment on sait si la boucle se répète 5 fois, 10 fois ?
Oh, j'y viens. Les pièces de Lego, c'est pas des pièces de Lego complètement pures, c'est un assemblage. De telle sorte que j'ai fabriqué des briques dans lesquelles il y a des trous. Et dans ces trous, on va insérer toutes les plus petites pièces de Lego qui sont de 1 par 1, ceux qui ont déjà joué au Lego. Ah oui. Et ces pièces de 1 par 1, dessus, j'y ai collé les nombres en braille et en noir, en gros caractères, en Arial 24, gras. Et donc, ces petites pièces, en fait, il y en a, il doit y en avoir 250, je crois, dans la mallette à peu près. Donc, il y a tous les nombres, enfin tous les chiffres plus exactement, les lettres les plus utilisées en mathématiques, et puis le reste de l'alphabet, parce que ça peut être utile quand on demande, quand on pose une question à l'utilisateur du programme, par exemple, on peut lui demander « donne-moi un nombre », et bien à ce moment-là, on va mettre la lettre N. Donc, en fait, dans la pièce, on va imbriquer le nombre de fois où on répète, ou alors de combien de pas on avance. Ben, on avance de 100 pas, donc on prend la petite pièce 1, 0, 0, et on l'insère dans la brique d'instruction.
Il y a Sarah qui dit sur le chat « c'est dur à comprendre
». Ouais, mais c'est rudement astucieux, moi, je trouve.
Merci.
Non, sérieux, c'est super astucieux.
Expliquer le stade des nombres à insérer. En fait, toutes les instructions, quand on construit un programme, la construction d'un programme en informatique, finalement, c'est basé sur des mathématiques. Pour diriger le chat, on va lui demander d'avancer de temps de pas, d'une certaine manière. On va lui demander de tourner de tant de degrés. On va lui demander de parler pendant tant de secondes. On va demander au programme de poser des questions à l'utilisateur du programme, par exemple, quand on va retirer des sous, combien d'argent voulez-vous retirer ? Saisissez un nombre. Donc voilà. Donc là, les élèves, quand ils construisent des programmes sur Scratch, ils doivent pouvoir mettre toutes ces variables dans les pièces de Lego.
Quentin qui dit complexe. Il y a Quentin sur le chat qui dit complexe, mais ingénieux ce petit bricolage.
Et donc il y a aussi la possibilité de créer des variables.
Et c'est un programmeur lui. Hein.
D'accord.
C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je précise. C'est un programmeur et il est aveugle.
D'accord. Et une variable en fait, c'est en mathématiques une variable, donc c'est une petite boîte dans laquelle on va arranger un nombre qu'on va appeler t, par exemple. Et on va dire à l'ordinateur, voilà, cette petite boîte, elle s'appelle T. Donc, c'est une petite pièce noire et on pose une petite lettre au-dessus, on emboîte une petite lettre en disant, voilà, ce nombre-là, dans cette boîte-là, on va ranger un nombre qui s'appelle T. Et au fur et à mesure du programme, T peut changer. Et à chaque fois qu'il change, on va indiquer au programme, on va lui dire, dans T, tu vas mettre telle chose. Dans T, tu vas rajouter telle chose. Ça, c'est un concept mathématique qui est difficile à comprendre pour les élèves. Et le fait de le manipuler avec les Lego, ça rend la chose très concrète et très matérielle. Et du coup, les élèves déficients visuels, mais aussi les copains voyants, comprennent ce que c'est, comprennent le concept lui-même. Comme le concept de boucle, c'est quelque chose de difficile.
Admettons que voilà, un élève, il a jamais touché tout ça, ça prend combien de temps pour qu'il arrive à l'utiliser vraiment ? Ça, c'est rapide ou...
C'est assez rapide, en fait. Au début, je me suis dit, oh là là, mais ça va être long.
Ben oui, parce que... On peut se dire, en l'écoutant l'explication, on peut se dire, mais ça se trouve, il faut 3-4 jours.
Surtout qu'il y a plus de 450 pièces dans la mallette.
Et tu dis, ah bah, sérieux, mais ils font comment? Oui, ça combien de temps ils prennent ça?
La mallette, en fait, le rangement de la mallette est important aussi. Donc, je suis allée faire une razzia chez Castorama. Parce que j'ai acheté plein de petits trucs chez Casto pour arriver à fabriquer la mallette. Et donc, la mallette, en gros, c'est une mallette de quincaillerie où on range les vis d'habitude. Donc, ce sont des petites barquettes qui sont dans une mallette qui, finalement, a la taille d'un attaché-case. Donc, pour aller en cours, ce n'est pas encombrant. Donc, dans ces petites boîtes, les petites boîtes sont toujours rangées dans le même ordre pour que les élèves sachent où sont rangés les types d'instructions. Sur le côté de chaque petite boîte, on retrouve la forme géométrique de la tranche des pièces. Donc, la boîte où il y a les triangles, ce sont que les déplacements. La boîte où il y a les petits ronds, ce sont que les instructions pour le son. La boîte où il y a les petits carrés, ce sont que les instructions d'opération.
Ah oui, donc tu vois, c'est le fait que ce soit bien rangé qui explique
tout
déjà.
Tout est organisé dans la boîte. Les nombres sont toujours rangés. Il y a une petite boîte pour deux chiffres. Et dans chaque petite boîte, il y a toujours les mêmes chiffres. Et les petites boîtes sont toujours rangées dans le même ordre. Donc, quand on a besoin d'une instruction, quand on a analysé le programme et qu'on a vu, par exemple, fait tracer un carré au chat, là, on se dit, les instructions dont on va avoir besoin, c'est le stylo pour qu'il trace. Et puis, c'est des déplacements. Donc, je ne vais sortir de la mallette que le compartiment stylo et le compartiment déplacement.
Il y a François qui te dit bravo, parce que lui, il aurait aimé avoir quelque chose d'aussi ingénieux quand il était au lycée pour les programmes.
Merci. Ouais. Et donc du coup, ça devient facile à ranger. En fait, ce qui est depuis le mois de... Alors en fait, j'ai mis 2 mois à fabriquer la mallette. En fait, au mois de septembre, j'ai compilé tous les exercices de collège, de la 6e à la 3e, pour voir le nombre d'instructions qu'il me fallait dans chaque famille. Parce que sur Scratch, on peut en faire autant qu'on veut. C'est infini, puisqu'on saisit des valeurs dans des étiquettes, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, j'ai fait un inventaire complet. Donc, ça a été un travail qui m'a pris un bon mois, quoi.
À peu près un mois pour quand même.
Tout bien compilé, pour bien calculer le nombre de pièces. Après, pour que je modélise les pièces, combien il me fallait de Lego pour faire telle pièce, et ainsi de suite. Et puis ensuite, après, ce qui prend du temps, pour faire une mallette, il me faut 40 heures de manutention pure. C'est-à-dire assembler les différents morceaux du Lego pour que la pièce, elle soit pas trop grande. Parce qu'il faut qu'on puisse le lire avec l'index et sur le côté avec le majeur. Donc, mes élèves, c'est encore des ados, donc ils n'ont pas des mains gigantesques. Mmh. Et puis, le but, c'est que la mallette, elle soit utilisée aussi en élémentaire. Donc, il fallait que ce soit des pièces d'une taille raisonnable.
Une taille raisonnable, oui.
Voilà. Et puis après, là-dessus, non seulement il y avait cet assemblage en laissant les trous, il fallait que je rajoute, donc j'ai rajouté à la main le gros caractère en noir. Et puis ensuite, par-dessus, après, à la Perkins, j'ai tapé toutes mes petites étiquettes transparentes que j'ai collées sur tous les Legos. Plus toutes les formes géométriques sur le côté. Mes petits scotch d'électricien pour que ça tienne bien. Voilà, donc il y avait toute cette phase-là qui est quand même très longue d'un point de vue manutention, on va dire. Et
attends, on a un message de Quentin. Tu dis que les pièces de Lego ne sont pas toutes simples, mais du coup, ça doit prendre pas mal de place, non?
Non, ça tient dans un petit attaché case, en fait. Dans une mallette, les mallettes de bricolage, là où on met des vis et des clous, là, ça fait à peu près la taille un tout petit peu plus grand qu'une valise entre le A4 et le A3, quoi. Donc ça se tient, c'est tout léger, ça se transporte sans problème. Je l'ai amené plusieurs fois à Paris dans le TGV, ça se transporte très bien. Ça s'emmène de cours en cours, c'est pas encombrant. Et pour revenir à ta question, Kevin, sur combien de temps il faut pour le prendre en main.
Ouais.
En fait, il y a cette partie rangement. Donc ça, c'est ce que je fais à la séance que je vais appeler S0. Donc on apprend comment sont rangés les différents éléments. On apprend ce que ça va nous apprendre, surtout à discuter avec un ordinateur, grosso modo c'est ça. Et puis après, il faut 5 séances progressives où on va introduire progressivement les différentes pièces. Donc la première séance, on va travailler que sur les pièces de déplacement et les pièces qu'on appelle d'événement, c'est-à-dire pour déclencher le programme.
Donc c'est par palier, quoi.
Par palier. Voilà. Si fait qu'à la fin, au bout des 6 séances, puisque S0 plus 5, à la fin des 6 séances, l'élève ce qui fait à peu près 1 à 2 semaines, l'élève déficient visuel, non seulement il est au point sur la mallette, mais en plus, il est au point sur les différentes pièces, ce qui veut dire qu'il est au point sur les différents types d'instructions. Donc, quand il arrive en cours après, ben, il est très à l'aise par rapport aux copains qui découvrent le logiciel au moment où lui arrive en cours.
Ouais.
On a un message sur le chat, mais en fait, il doit y avoir des limites. Quelles sont les limites de cette méthode? L'erreur, c'est pas de vouloir trop se rapprocher de l'interface qui est utilisée par les personnes voyantes.
Ben non, parce que justement, il n'y a pas de limite dans le sens où tous les éléments qui auraient pu être limitants, c'est-à-dire les variables, les capteurs, c'est-à-dire poser des questions à l'utilisateur, par exemple, tout ce qui était valeur aléatoire, tout ça, c'est pris en compte. Et ce n'est pas limitant dans le sens où la mallette travaille vraiment sur le sens de l'instruction. Et du coup, avec l'élève qui est en première ES, je fais de la programmation de calculatrice avec la mallette. Et pourtant, ce n'est pas du scratch. Donc, c'est transposable, quel que soit le langage, finalement. Et ce n'est pas limitant dans le sens où, c'est ce que je disais en tout début, une de mes motivations d'enseignante spécialisée, c'est de montrer que les outils qu'on utilise avec les élèves déficients visuels, là en l'occurrence, aident les autres. Les aide. Plein de raisons. D'abord parce que quand ils sont sur Scratch, les autres, ils vont faire par essai erreur. Oh, ça marche pas, je vais mettre 25, ça marchera mieux. Et là, il y a l'élève des déficients visuels qui lui dit, non mais attends, regarde, on va re-regarder notre script en Lego et en fait, c'est que l'instruction, elle n'est pas au bon endroit. Il y a le coup de je vais changer une valeur et puis il y a l'autre réaction de certains élèves voyants, c'est oh ben ça fait pas tout à fait ce qu'on veut, oh ben, je vais rajouter avance de 5, comme ça, ça rattrape et puis ça marche. Et là, en réfléchissant avec le copain déficient visuel, tous les deux, ils finissent par arriver à la conclusion que ben non, quand on analyse le script en Lego plus le substitut d'écran, on se rend compte que non, le problème, ça ne sert à rien d'essayer de le réparer. Si on change l'instruction qui est à tel endroit, ça va marcher.
Donc au final, même les voyants profitent de cette mallette finalement.
C'est ce que disent les voyants. Les élèves voyants, ils disent mais ça me permet de réfléchir.
Message sur le chat qui dit, du coup, ça nous apprend à analyser autrement que les personnes voyantes.
C'est ça. Et enfin, oui et non, parce que là, les personnes voyantes, là, les élèves voyants, ils sont dans l'analyse comme les élèves DV. Ils bénéficient de ça, finalement. L'élève déficient visuel les force à réfléchir.
Ouais, et voilà.
Parce que du coup, maintenant, il y a même une professeure de mathématiques cette semaine qui m'a dit, mais moi, j'en veux une par élève.
Ouais, sachant que tu mets 40 heures sur une seule, ça risque d'être chaud quand même.
Bah, le but du jeu, c'est qu'on mette plus 40 heures pour la fabriquer.
Non, bah non. Mais bon. Meb, t'as une question ou pas?
Ça donne envie de se mettre à la programmation.
Ah ouais?
Voilà, ce que j'ai à dire.
Pas y aller. Les élèves n'avaient pas envie d'y aller, que ce soit voyant ou déficient visuel, ils voulaient pas y aller. Et maintenant, ils aiment y aller. Et ce que disait une des élèves qui est en binôme souvent avec une de nos élèves de l'ULIS, là, elle disait on fait aussi Scratch en techno et c'est très compliqué parce que j'ai pas la mallette.
Mais je t'avoue que même en t'écoutant comme ça et tout, je me dis mais franchement c'est chouette quoi. Je veux dire même quand j'ai appris l'objectif C et tout ça, ou même le PHP et tout pour essayer de pouvoir me débrouiller tout seul, j'aurais bien aimé avoir ça quoi. Tu vois.
Oui, parce que ça reste quand même c'est des langages qui sont quand même abstraits.
C'est la base.
C'est abstrait quand tu le fais comme ça en apprentissage devant un clavier et d'avoir une mallette comme ça qui permettrait de faire vivre un petit peu les choses abstraites en les rendant concrètes par les Lego. Je pense que pour les non-voyants, ça peut être pas mal en fait, parce que ça permet de rendre concret, beaucoup plus concret les choses que sur un clavier d'ordi.
Quand on fait certains programmes, par exemple, si on veut faire une frise de carré, on ne va pas écrire un programme qui n'en finit pas. On va expliquer au programme, ben voilà, ça je t'explique, c'est un motif. Et quand je te dirai d'appeler le motif, tu le reprends. Et donc ce motif, en fait, on va l'encadrer de deux toutes petites baguettes de Lego. Et selon l'endroit où on met la baguette de Lego, sur la tranche, le trou que ça forme sur la tranche du programme est plus ou moins grand. C'est ce qui va permettre d'avoir plein de blocs différents. Bloc numéro 1, bloc numéro 2. Donc on encadre notre morceau de programme, notre carré, de ces deux baguettes. on le pose sur le côté. Et puis, à chaque fois qu'on mettra une baguette au même niveau que celle-là, le programme saura qu'il faut aller rechercher le motif. Et le fait d'avoir le motif sous les yeux ou sous la main ou sous les doigts, de garder un morceau de programme toujours à portée de main, c'est un peu comme en cuisine quand on réserve ces blancs en neige. Ben, on sait qu'ils sont là et qu'on peut aller vérifier à tout moment.
On peut vérifier, ouais.
Et ça, pour un élève déficient visuel, c'est super important, mais pour d'autres élèves aussi, parce que la mémoire de travail, elle n'est pas extensible. La mémoire de travail, elle mobilise ce qu'on connaît, elle mobilise la consigne du prof et elle mobilise la réflexion. Et il faut faire rentrer tout ça dans cette case, parce qu'il n'y a que cette case disponible. Donc, si on peut décharger un peu la mémoire de travail en se disant, bon, bah, ce petit bout, je sais qu'il est posé là sur la table.
Il est là, au moins je sais où il est.
Là, si je ne sais plus, je peux revoir. Voilà, donc il y a aussi ce côté, je l'ai vraiment dans les mains. Il y a aussi le côté, le programme, je peux le rapprocher, je peux le déplacer, je peux le bouger. Alors qu'à l'écran, on dit qu'on veut bouger un morceau de programme, il y a des morceaux qui se défont.
C'est comme un puzzle. Hein.
C'est comme un puzzle. Et c'est aussi comme ça que les élèves déficients visuels et voyants décrivent l'interaction qu'ils ont entre eux en cours. Ils disent, on est comme un puzzle.
Ah bah tu vois.
L'élève voyant, il va saisir à l'écran une fois qu'ils ont fini de construire leur script, et il va reproduire sur le substitut d'écran ce qui s'est passé. Mais l'élève déficient visuel, il apporte encore plus avec sa mallette finalement.
Un message du chat, qui dit ça permet d'embrayer sur les fonctions, ton histoire de motif.
Oui, justement, les fonctions, le dernier exercice de maths que j'ai fait avec les troisièmes, c'est la conjecture de Syracuse. Et la mallette le permet.
Et bonsoir Gabriel du Portugal qui vient de se connecter, a priori.
Donc oui, on peut aller très loin en maths. Et là, en première ES, ce qu'on a programmé, c'était une fonction. Donc on peut faire des instructions à condition. Si x est supérieur à 0, tu fais ça. Sinon, tu fais ci. Donc voilà. Et ça, le fait de manipuler tout ça avec des Lego et de manipuler sur le substitut d'écran, ça permet vraiment de comprendre des concepts comme l'idée de variable, avoir une petite boîte. Ça permet vraiment de comprendre ce qu'on est en train de faire.
Je comprends vraiment. Et il y a justement, il y a François qui dit sur le chat, en fait, on remplace la vue par le toucher pour programmer.
Ouais. C'est ça. Par le toucher et la manipulation. Mmh. Et puis, il y a aussi une autre force de la manette, c'est les opérateurs. En fait, déjà pour ça, nos élèves, ceux qui sont en braille, ils ont déjà un atout non négligeable par rapport aux autres, c'est qu'on est obligé d'utiliser les blocs en braille mathématique, parce que pour dire que A plus B sur 2, A plus B, c'est tout A plus B qui est en haut, on est obligé d'utiliser des blocs, et ça, c'est la même gymnastique qu'il y a dans la programmation finalement. Pour dire dans quel ordre on va faire les opérations, dans Scratch, on voit qu'il y a une étiquette qui regroupe deux variables et un opérateur au milieu. Sauf que c'est très pâle, ça se voit à peine, et comme il n'y a pas de parenthèse dans le logiciel, les élèves voyants sont vite perdus. Tandis qu'avec les Lego, l'opérateur, c'est une brique.
Du coup, peut-être que voilà. Même les voyants, dans les écoles normales, ils vont les prendre entre eux.
C'est un peu le but, en fait, au départ.
Même s'il n'y a pas de personne déficiente visuelle.
Voilà, quand je l'ai présenté au ministère, en fait, au départ, je l'ai présenté comme AccessiDV Scratch, comme son nom l'indique, c'est pour rendre Scratch accessible aux élèves DV. Et puis, déjà en l'utilisant, on avait vu un petit peu que les autres trouvaient ça intéressant. Et quand je l'ai présenté au ministère, la première chose, une des premières choses qui est ressortie de cette première réunion, ça a été, mais ça va aider tous les élèves, ça va faire tache d'huile. Hein, c'est le doyen des inspecteurs généraux de mathématiques qui disait, ça va faire tache d'huile et ça va intéresser beaucoup de professeurs de mathématiques. Et effectivement, ensuite, quand je l'ai présenté à l'Institut de recherche mathématique, c'est ce qui est ressorti. Les professeurs disaient, mais ça, c'est bien pour tous les élèves. Et,
c'est excellent,
voilà.
C'est excellent quand même. Ça. Voilà. Mmh. C'est gratifiant pour quelqu'un, tu vois, qui fait quelque chose dans son coin au début, tout ça. Et puis, oui. Quand tu as l'assentiment comme ça de gens, de tes collègues, et tu te dis, mais quand même, finalement, tu vois un peu le bout du, la lumière au bout du tunnel.
Voilà. Et alors, la cerise sur le gâteau, là, c'est que il y a le brevet qui approche pour deux de nos élèves qui sont en braille complet, hein, ces deux élèves. Donc, il y avait ce problème d'épreuve, parce qu'à l'épreuve de mathématiques, il y a un exercice sur Scratch. Donc, pour le moment, les exercices zéro qu'on a vus du brevet, c'était une capture d'écran de Scratch avec deux scripts différents. Et il fallait analyser justement ces deux scripts. Donc,
Il y a Sarah qui dit sur le chat, il faut poser un brevet et le faire par un ESAT, un ISAT, c'est des
oui.
ateliers où il y a des personnes handicapées là qui travaillent.
Alors, en fait, justement, donc, suite à ma visite au ministère, du coup, depuis, il y a un groupe de travail qui s'est constitué avec l'INSEEHEA, l'Institut de recherche sur l'enseignement spécialisé, pour faire simple, avec l'INSEEHEA, avec donc le responsable numérique et éducation du ministère, et puis avec un informaticien qui s'occupe du concours Castor de programmation. Donc voilà, donc on a constitué un petit groupe et donc on est en train de travailler justement sur la fabrication à grande échelle et sur la diffusion, puisque le but du jeu c'est qu'il y en ait au moins un par établissement où il y a un élève déficient visuel. Et puis plus ça va, plus, comme ma collègue me disait qu'elle en veut une par élève. Donc on travaille sur plusieurs pistes. On travaille sur la piste de Lego justement pour avoir un partenariat avec eux. Donc pour le moment on attend. Là, j'ai envoyé mon courrier. Au Danemark, donc on croise les doigts,
Vous
même si
croisez les
c'est
doigts.
avec Lego parce que c'est une marque, voilà. On aurait un autre, ce serait un vrai travail en partenariat avec Lego dans ce cas, puisque on a un autre petit souci, c'est le braille mathématique qui n'est pas le même en anglais. Nous, on veut pas des briques anglaises, on veut des briques
Des
françaises.
briques françaises, s'il vous plaît.
Notre piste est de travailler avec des briques Lego qu'on leur achèterait en gros stock.
En gros, ouais.
Et qu'on ferait imprimer, donc on a trouvé un imprimeur qui fait du braille en résine et du noir en gros caractère. Donc ça, c'est une autre piste. On a aussi une piste avec l'impression 3D et on explore aussi les pistes de la plasturgie. Donc voilà, donc on a plein de pistes, ça se déblaye progressivement. On espère que ça va se mettre en place le plus vite possible. Voilà. Et donc, je reviens sur l'histoire du brevet, parce que c'est aussi une évolution non négligeable, c'est qu'on a fait les demandes d'adaptation d'épreuves, comme chaque année. Et là, on m'a dit, mais la mallette, et ben, j'y suis allée au culot. J'ai mis tout ce que je voulais comme adaptation, donc j'ai mis énormément de choses. L'infirmière scolaire m'a dit qu'elle n'avait jamais vu autant de demandes. Et quand elle est revenue avec les fiches, elle nous a dit aussi qu'elle n'avait jamais vu autant de demandes acceptées. Donc tout ce qu'on avait demandé a été accepté, y compris la mallette. Voilà. Donc mes élèves vont pouvoir passer l'épreuve du brevet avec la mallette. On espère que ce sera le cas aussi dans l'avenir pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau.
C'est inscrit sur le gâteau. Mais parce que tu as une question, parce qu'on approche de la fin du Zoomcast.
Cette histoire de mallette, moi, il me semble que ça pourrait être même intéressant pour toute personne déficiente visuelle qui veut éventuellement découvrir ou par elle-même tous les langages de programmation avec cette mallette, justement, avoir peut-être un livret supplémentaire pour expliquer les gros principes de base, faire des exercices pratiques. Moi, je pense que ça peut vraiment aussi, au grand nombre de non-voyants qui sont intéressés par la programmation, ça peut être aussi un moyen d'y arriver,
Au-delà
sans
du
forcément, voilà, sans forcément être à l'école.
Au-delà du scolaire, ouais. Petite question de François, est-ce que tu peux positionner les Lego pour faire des courbes?
Oui, on fait des courbes, on fait des fonctions,
Des
tout ça, on
graphiques.
le fait. Des graphiques, tout ça, on le fait. Mais. Alors, pour les graphiques, en fait, on utilise surtout les épingles après pour voir le rendu, pour avoir vraiment une courbe.
Question de Quentin sur le chat et puis on va finir le. C'est en fait il demandait si tu avais des trous régulièrement espacés pour mettre les épingles ou bien est-ce que tu les mets juste en te basant sur les repères sur les côtés?
Alors, en fait, le repère, il est gradué de 10 en 10, mais comme c'est du polystyrène, je peux piquer partout où je veux.
Mais oui, parce
Je sais
que
pas
son
si.
substitut d'écran, c'est un polystyrène, Quentin. Parce qu'il demandait
Voilà.
c'était quoi?
Alors en fait, c'est une plaque de polystyrène. Quand on se fait livrer un écran d'ordinateur, on a souvent une grande plaque de polystyrène pour protéger l'écran. Donc c'est des grandes plaques de polystyrène comme ça c'est de la récup, hein, que j'ai récupérée. Sur lequel j'ai mis une feuille de DER, de dessin en relief, sur lequel il y a le repère qu'on peut sentir. Et en fait, j'ai choisi comme figuré un pointillé. Et qui se sent bien avec les doigts. Donc, du coup, entre chaque graduation, on sent les pointillés. Donc, ce qui fait qu'on peut piquer là où on veut avec l'épingle.
Du des podcasts, des articles, des forums de discussion et même du live, c'est sur www.edencast.fr.
Et du coup, on arrive à la fin de ce focus. Est-ce que t'as une question ou pas ? Même sur le chat, ils n'ont pas de questions a priori. Donc.
Non, mais moi, je trouve ça vraiment... vraiment. Alors, c'est marrant parce qu'à l'ère des tablettes, des stylets, des ordinateurs, des écrans tactiles et tout, eh ben, on revient au Lego. Moi, je trouve ça génial.
Alors, le téléphone, il a quand même sa place dans le processus.
Oui, bien sûr.
En fait, il faut que le prof il ait le résultat à la fin. Donc, l'élève est autorisé à avoir son smartphone en cours de maths. Donc, il photographie son script et on envoie le script photographié au professeur. Et à l'avenir, un peu plus loin, dans le groupe de travail, on a quelqu'un qui va, dans le groupe de travail du ministère avec qui je travaille, là, il y a quelqu'un qui va fabriquer donc, une application smartphone qui fera qu'une fois que la photo est prise, ça pourra communiquer directement avec le logiciel.
Et le sondage n'a pas, enfin, il a évolué un petit peu, mais la tendance, elle est toujours en puissance. Enfin, c'est... ceux qui savent cuisiner, c'est toujours en puissance à 59%, avec 113 personnes, donc 59%.
Ouais.
Ceux qui favorisent les plats préparés et la restauration rapide, 24%. Tu vois, ça s'effondre direct.
Mais...
Et ceux qui sont cuisinés des plats et qui préfèrent un peu, qui ont un peu l'impression d'être au resto, ils sont
minorité.
ils sont 33 pour 17%. Donc.
Après, tu vois, moi j'aime bien tes sondages et tout, mais c'est vrai que des fois ça donne envie de creuser un peu plus, tu vois, de savoir mais qui sont ces gens, tu vois.
Mais en fait, je fais délibérément des sondages super simples parce qu'en fait, que tu pars sur des sondages compliqués avec des cases, avec des formulaires et tout, on aura forcément, je pense qu'il y a des gens qui vont pas le faire. Donc,
voilà, c'est ça, il faut pas que ça soit trop intrusif aussi non plus.
Ben oui, en fait, c'est surtout ça, parce que sinon, mettre des trucs à choix multiples et tout ça. Je pense que c'est pas... Si on veut avoir plein de gens...
Non, et puis il faut que ça puisse être rempli rapidement. En fait.
Voilà, c'est ça. En fait, même pas 5 secondes, t'as voté, quoi, tu vois.
Mm-hmm. Alors c'est rapide, c'est bien.
Ben, c'est pour ça que... Parce qu'il y en a qui m'ont mis ça plusieurs fois. On me dit, ouais, mais tu mets des trucs trop simples et tout. Je dis, oui, mais dès que tu veux compliquer un sondage et tout ça, ça va arranger certaines personnes, mais pas d'autres. Donc voilà, c'est toujours... C'est délicat, en fait. On a un message de Quentin qui dit... Merci pour cette présentation et encore une fois, félicitations pour avoir fait un truc qui profite vraiment à tout le monde.
Ouais. Merci.
Et ben en tout cas, un grand merci à toi Sandrine d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler un petit peu de ce projet.
Merci beaucoup.
Comme ça, au moins, voilà, ça fait découvrir d'autres personnes. C'est vrai, il y a un aspect un peu technique et tout, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, il faut creuser un petit peu pour comprendre le fonctionnement et puis... Si ça peut permettre à plein de personnes déficientes visuelles qui, à la base, auraient été exclues de la programmation dans des écoles, c'est un chapeau, quoi. C'est énorme.
Merci.
Ben, il faut proposer aussi à l'école 42 là, de Xavier Niel la mallette. Hein.
C'est vrai. Tu devrais voir Xavier Niel. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des personnes déficientes visuelles là-bas, cela dit.
Oui, mais ça peut quand même.
Ça aide tout le monde, finalement.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai.
J'avais oublié un avantage aussi, c'est que ça a l'avantage d'attirer les élèves voyants au braille.
Ah oui.
Voilà. Et donc je trouve que c'est important. Je milite beaucoup pour le braille parce que...
Et nous donc ?
À 70 ans, c'est trop tard pour apprendre le braille, tandis qu'à l'adolescence, on peut encore l'apprendre. Et connaître le braille avec les doigts, c'est un acquis pour toute la vie. Voilà, donc je pense que ça devrait faire partie de l'apprentissage de base.
D'autant que plus on l'apprend tôt... Et plus vite on arrive à coloniser les cellules cérébrales, enfin les neurones, les neurones visuels qui auraient dû servir à la vue, servent au toucher.
Bon, et ben on se quitte avec Keep You Warm. Je vous la fais écouter un peu là en antenne.
Allez,
bingo, c'est parti.
I'll keep you warm underneath the Christmas lights, sing you through the silent night. Through the snow and through the storm, I'll keep you warm.
Bye bye.
Winter's on the wind, it sings familiar melodies. A chill starts setting in,
Silver bells are cast in spells, it all comes back again. Lay your troubles down, let me hold you. Now all the signs appear, the Christmas trees, the memories they bring this time of year. Ghosts of winter's past come in and whisper in your ear. Don't listen to a word they've told you. Ooh. 'Cause I'll keep you warm underneath the Christmas lights. Sing you through the silent night, through the snow and through the storm. Start a fire and feel it glow as the winds begin to blow. Come inside and close the door. You don't have to face the cold alone no more. I'll keep you warm. Lights, sing you through the silent night, through the snow and through the storm. I'll keep you warm, start a fire and feel it glow as the winds begin to blow. Come inside and close the door. You don't have to face the cold alone. 'Cause I'll keep you warm. Through the storm.